Bonjour and welcome to our podcast series, Une ville, deux réalités, a meeting between Anglos and Francos 50 years after the Official Languages Act. Ce projet a été lancé dans le but de donner aux deux groupes linguistiques la possibilité d'échanger et d'exprimer leur point de vue sur la vie quotidienne afin de mieux comprendre et apprécier la dualité linguistique de la ville de Kingston et les Mille Îles. This podcast is presented in both official languages.
Bonjour et bienvenue au 10e balado de la série Une ville de réalité. Je m'appelle Natalia Martin et merci à tous et à toutes d'être avec nous cet après-midi. Hello and welcome everyone to the 10th podcast of our series One City, Two Realities. I'm once again with my lovely guests, Isabelle Tardivo, and Sunita Gupta, both residents of Kingston, to continue our informative conversation about immigration. L'immigration est un sujet aussi vieux que le temps. Donc, il y a encore beaucoup d'apprentissage à faire, beaucoup de partage à faire, beaucoup à réfléchir et à explorer. Alors, sans plus tarder, Isabelle, je commence avec vous. Une fois vous avez dit que les parcours des immigrants peuvent être variés tout en ayant des points communs, et c'est vrai, comme nous avons pu réaliser dans notre dernier balado. Cependant, dans notre dernière conversation, on a discuté du choc culturel comme quelque chose de presque inévitable. Donc, à partir de vos réflexions et à partir de votre expérience, de quelle manière la communauté pourrait-elle aider à rendre l'arrivée des nouveaux arrivants immigrants plus facile et plus naturelle?
Alors, je pense que quand on s'engage dans un projet comme celui-là, partir habiter à l'étranger, ça ne s'improvise pas. Donc, il y a un point qui est vraiment pour moi très, très important, c'est de bien se préparer en amont. Et pour ça, je trouve que le Canada nous offre beaucoup, beaucoup de ressources. Je trouve qu'on a eu accès à énormément d'informations avant notre arrivée, ce qui nous a permis d'anticiper un maximum de choses. Il y a vraiment des tas de sites qui sont très, très bien faits, comme le site du gouvernement du Canada, le site de l'immigration, le site de l'Ontario. On a aussi trouvé plein d'informations sur établissement.org. Et le fait d'avoir accès vraiment à toute cette information qui est autant pour des aspects pratiques que pour des aspects culturels. Je me souviens d'avoir regardé une petite vidéo justement où il parlait du choc culturel avant notre arrivée. Donc je trouve que vraiment si on se renseigne bien, on a accès à énormément d'informations pour éviter les mauvaises surprises. Donc je trouve que vraiment pour ça, on sent que le Canada c'est un pays accueillant en ce sens. Parce qu'ils ont vraiment mis tous les outils à notre disposition pour qu'on se sente accueilli et les bienvenus.
Sunita, so we were speaking again, speaking about the cultural shock, because this was the theme that we finished our last podcast. So Sunita, from your experiences, in what way can the welcoming community make the arrival and integration of immigrants and newcomers easier or more natural?
Love this question. So we have, there are obviously, we have a formal structure, which is where the responsibility is, it lies with the settlement agencies, you know, service providing organizations and direct and indirect settlement. So, you know, this would be all the different agencies that are working directly with newcomers, providing settlement services or language services, employment, all of that. And here in Kingston, I mean, that, you know, that makes me think of Kingston Literacy and Skills, KCHC, the ISCA component of that, and ACFAME, Keys is another one with employment. So, yes, there is that formal structure, and obviously there is a little bit of mandate that they all have to go by, and what is it that they can do and they cannot do. But I think the informal supports are very important. So perhaps having those connections with the broader community and with ethnocultural associations, so that you know that there is another community here that, you know, if you identify as somebody from India or somebody from Pakistan or from the Latin community, having that helps, because that is really important at that time. So those are some of the things that the broader community can play a role in. And of course, there's other, what we can call the secondary needs, such as what's here available in the city in terms of recreation facilities and museums and theater, which all right now is either virtual or non-existent. But, what are those initiatives that the newcomers can be introduced to, arts programs and dance. And so there is so much. And yes, sometimes, of course, it's also a very limiting, or newcomers are limited by either the resources, be it financial, be it simply the time, because they're so focused on those primary settlement aspects when they come. But these are very important. And I mean, if I may plug KIPP and the city, for instance, here, Natalia, as you know, we get the welcome package from the city of Kingston. And that is something, I'm not saying that is all encompassing, but it is a way to introduce a newcomer to the theater scene here in Kingston, or perhaps introduce them to the recreational facilities offering a free membership for a certain period so that they can go and try some physical activity or swimming and whatnot. So all of these things become very important for us as a community to play a role in, and playing a connector role, so we shouldn't just be focused on, well, they need to go to Service Ontario, they need to go to Service Canada, they need to, we need to take it beyond that and make sure that we're providing some of those soft supports as well. So yes, that plays a huge role on all of us as a community.
Thank you, Sarita.
Si je peux rajouter pour appuyer ce qu'a dit Sunita, effectivement, donc passer cette étape de préparation en amont, c'est vrai que je trouve que, en ce qui nous concerne, en tout cas, le relais a été bien pris sur place, notamment par le biais de l'ACFOMI, l'Office du tourisme, enfin voilà, sur toutes les activités qu'on pouvait trouver en plus à Kingston. Donc oui, je suis d'accord. Et puis c'est vrai que le lien après, le lien humain, voilà, c'est bien d'être derrière son ordinateur et de préparer son départ, mais après, on a besoin de voir les gens et partager ce qui est vraiment la vraie vie sur place.
Merci, Isabelle. Bon, faisons un peu de recul dans l'histoire. Le gouvernement fait la promotion du multiculturalisme depuis de nombreuses années, depuis au moins 1982, avec la Charte des droits et libertés sur le multiculturalisme. Sur le multiculturalisme. Et il semble que ça fait un impact sur la communauté. So, Sunita, I am explaining that the government has promoted the multiculturalism for many years, at least since 1982, with the Charter of Rights and Freedoms, on multiculturalism. And it looks like it has an impact in the community, right? Pour vous, Isabelle, que pensez-vous de la politique du multiculturalisme au Canada? Pensez-vous que ça facilite le parcours d'immigration?
C'est certain, je trouve déjà que ça donne une belle image du pays. Je trouve que ça dénote un sens de l'accueil, une forme de tolérance et de respect. C'est vrai que si je compare ça à des modèles qui me sont plus familiers, j'ai l'impression que chez nous, l'intégration, elle passe par l'adoption de la culture du pays d'accueil. Et ici, ce n'est pas du tout ce qu'on a ressenti, au contraire. On a l'impression qu'en arrivant au Canada, on nous incite à garder notre culture et à la partager avec les autres et à mélanger ces cultures. Et ça, je trouve vraiment que c'est une vraie, vraie richesse. Et je trouve qu'en nous incitant comme ça à partager notre culture avec les autres et à s'intéresser aux autres, ça facilite l'intégration. Parce que quand on s'intéresse aux autres, les autres s'intéressent forcément à nous. Donc je trouve que le Canada, il offre une belle mosaïque de diversité culturelle. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un aspect qui est mis en avant dans beaucoup de domaines, hein, que ce soit dans les administrations ou quand vous postulez à un emploi. Ils mettent vraiment en avant le fait qu'ils accueillent la diversité et l'inclusion et qu'il n'y a pas de discrimination.
Donc, ça veut dire que, est-ce que vous pensez que c'est important de garder notre culture ? Dans ce cas-là, votre culture ?
Alors, oui. Oui, parce que justement, comme ça, on peut la partager avec les autres et on ne se trouve pas juste absorbé par notre terre d'accueil, quelque part. On continue à exister en tant qu'individu, comme on est arrivé avec nos origines, nos habitudes, nos racines. Et on peut partager ça avec les autres et je trouve qu'on s'enrichit mutuellement de cette façon-là.
Sunita, so for you the same question. So, what do you think of the multicultural policies of Canada from the government? Do you think that this facilitates an immigrant newcomer to in the integration process?
I would like to think so. I mean, yes, for sure. There's lots being done, and also with the current government as well. I think there has been a real focus. Immigration has been at the forefront, and the multicultural policies as well. It does project us in a very positive light, I think, at the global stage. The other thing that I've lately read about a little bit here and there is even individuals identifying belonging to the LGBTQ2S+ community, you know, they are also eager to relocate to Canada because perhaps in their country, whether, you know, same-sex marriages are not allowed or, you know, if they're choosing to go through a gender change and whatnot, they, you know, there's a lot of those, you know, things in place here in Canada that you are able to avail. And I know that it is becoming a place that is perceived as a welcoming country, you know, for that. Now, yes, the individual, from one individual to another individual, whatever the discrimination is, that's different. But that doesn't mean that our national policies are not accepting of newcomers, you know, who identify. So for sure, there is that. And I think it's also finally, we are starting to realize that immigration is essential to the economic growth, you know, of our country, and apart from that, it also strengthens the social and the cultural fabric. So, yeah, for sure, all our policies, current policies, are supportive of that. It's that initiative and the ongoing sort of support to show that we are truly invested in immigration and welcoming newcomers.
And do you think that for each immigrant, do you think that that is important for them to keep their culture?
Personally speaking, yes, it is. But I always say this, I think integration is a two-way street. We don't need to lose who we are. We don't need to lose our identity in trying to integrate, in trying to assimilate. But at the and there's so much more to adopt as well. So in our family, quite honestly, just an example of that is that, and not just today, but we always have, we've celebrated Diwali with just as much vigor as we have celebrated Christmas. And if somebody would to invite me over for another holiday, you know, that they're celebrating, I'll be there with bells on. So we yes, it is important that we hold on to our identities, our culture, and that's what we pass on. And I can say that again, that we have been able to, as a family, pass that on to our children. But at the same time, we have that the obligation to learn about the new cultures that surround us as well. And I think that's when we really can get the best of both worlds.
Thank you, Sunita. And Isabelle, la même question pour vous. Est-ce que vous pensez que transmettre la culture, votre culture d'origine, que c'est important de transmettre ça à vos enfants, que vous avez des enfants, des petits-enfants?
Ouais.
Vous pensez que c'est important?
Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec Sunita. Je pense que c'est vraiment important de savoir d'où on vient et savoir où sont ses racines. Et d'ailleurs, il y a une citation que j'aime beaucoup à ce sujet et je trouve qu'il représente assez bien la réalité. C'est on ne peut donner que deux choses à ses enfants, des racines et des ailes. Et en fait, les racines, c'est ce qu'on leur donne pour la vie. C'est ce qu'ils sont réellement. Et puis les ailes, c'est ce qui va leur permettre de s'épanouir, de prendre leur envol et de se faire leur propre chemin et leurs propres expériences. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'était important pour nous que les enfants soient impliqués dans notre projet d'immigration et qu'ils y adhèrent pour leur permettre de s'ouvrir à cette opportunité et en profiter pleinement. Alors, je ne sais pas encore s'ils voudront rester au Canada, mais en tout cas, c'est sûr qu'au travers de cette expérience, ils auront pris conscience qu'il y a autre chose qui existe et que le schéma dans lequel ils ont vécu jusque-là, il n'est pas universel. Voilà.
Moi, je peux aussi parler de moi-même. I can also speak by myself because I have small kids. And for me, it's important to keep the identity and to keep the culture, especially the language, for example, because for me it's very important that my children, they are able to speak with my family, for example, my parents, their grandparents, in the same language, and that they are able to communicate and even to write Christmas cards. So they can write in the same language. So for me, I think that this is important. Maintenant, on va parler d'un sujet un petit peu différent. On va parler maintenant de l'embauche des employés immigrants. Je vais commencer avec vous, Isabelle. J'aimerais vous demander comment l'embauche des employés immigrants peut aider la diversité et à diversifier les entreprises.
Alors, clairement, je pense qu'employer des immigrants, ça permet d'apporter des nouvelles idées, des nouvelles expériences. Ça donne forcément des nouvelles perspectives aux employeurs et je trouve que c'est une belle preuve d'inclusivité, encore une fois, on en parlait déjà tout à l'heure, mais le fait de mélanger les gens comme ça, on en ressort forcément des choses plus positives et plus fortes et plus constructives. Je trouve que tout le monde a y gagné, tant l'employé que l'employeur. Et d'ailleurs, la diversité, c'est vraiment une notion que je trouve fascinante et qui est vraiment mise en avant au Canada. Pour moi, c'est une énorme source d'enrichissement. Et je trouve que c'est au contact des gens différents qu'on apprend. Si on est tous pareils et qu'on suit tous le même chemin, on ne s'enrichit pas mutuellement. Et ici, la diversité, elle ne s'applique pas seulement à l'origine géographique ou culturelle, c'est aussi à l'âge, au milieu social, au parcours éducatif, aux expériences professionnelles. Et je trouve que c'est en mélangeant tout ça qu'on en ressort quelque chose de plus riche, de plus complet. Si je devais comparer la diversité, je la comparerais un peu à un puzzle. Il n'y a pas un morceau qui est identique. En fait, ils sont tous complémentaires et quand on les associe à la fin, on construit un ensemble harmonieux.
Vous créez vraiment des belles images dans notre tête, hein, Isabelle. C'est très bien, oui, très bien expliqué, absolument. Sunita, for you, the same question. So we are speaking about to give the possibility to the immigrants to work in Canada and in this specific case in Kingston. So my question for you is, how does hearing immigrants employees can help diversity the business and the enterprises?
For sure. I mean, again, it's like we know by now, whether it is in how we dress, what we eat, like diversity is about so much more. And it's not just about how we look or how we dress. There is so much more to it. So similarly, there is a diversity in ideology that we bring when we are part of a workforce. And we all know there is one more than one way to get somewhere. So and that's exactly what a diverse workforce will bring. It'll bring different ideas to the table, different ways of doing things, and absolutely strengthens how things are done. And that is, and also quite honestly, we are living in such times that it's very global. And now, perhaps even relating all this to the pandemic, as we've pivoted to becoming so much more virtual, boundaries are they're blurring as we speak. They continue to blur, right? So you could totally be hiring somebody living in a different part of the country who can do all your tech work for you, via like virtually. So it is important to understand that it is important. And as we evolve globally, it has so much advantage to it. And what we learn from one another culturally and having that understanding. And there is, again, I think there is a tendency for everyone to think that something is getting taken away, whether newcomers come and take their job away or whatever. But I think at the end of the day, again, we're only adding to the fabric. We're only strengthening that fabric of, diversity and in all aspects. Just like you don't want to be eating the same meal every day. And, those of us, again, with young children who were born and brought up here, they are so used to every day of the week can be a different cuisine. You know, you could be eating Middle Eastern food, Mexican food, Chinese food, all in, and that's sort of who we are. So if that sort of mentality is extended to the workforce, to other parts, we realize that we only make everything so much more rich by doing that.
And maybe also the enterprises, they can also learn from different ways to do the things, because at the hand doesn't exist the right way. It's just a different way.
Exactly. So that's what I'm saying. There's more than one way to get to Toronto from here, right? You can take the 401 or you can take the scenic route. So at the end of the day, it is what's required. So absolutely. And that's what having that opportunity to gain different perspective from different countries, different cultures, that's what it brings to the table.
Thank you, Sunita. J'ai une question pour... je vais commencer de nouveau avec vous, Isabelle, ça ne vous dérange pas. Est-ce que vous pensez que c'est avantageux de maîtriser les deux langues officielles du Canada? Quels sont les avantages que vous pensez que les francophones peuvent avoir en immigrant au Canada?
Alors, je pense qu'effectivement, c'est toujours un avantage de parler une deuxième langue. Je pense qu'au Canada, c'est important de maîtriser en premier lieu la langue la plus parlée dans la région où vous êtes. Parce que malgré tout, là, à Kingston, je pense qu'il faut parler anglais. Mais par contre... Dans la mesure où le gouvernement essaie de maintenir le français, et c'est vraiment quelque chose qu'il ne veut pas perdre, je pense que oui, c'est un gros atout de parler français, notamment sur le marché du travail. C'est vrai qu'on a un avantage concurrentiel à pouvoir parler français. Donc oui, je pense que parler les deux langues, c'est intéressant, et tant qu'on peut les maintenir, il faut le faire.
So my question, Sunita, to Isabel was if it is advantageous to speak both official languages of Canada, what can be some of the advantages for being a Francophone and immigrating to Canada? What do you think about that?
Yes, yes, and yes. So first of all, I can just say, I am at a total disadvantage even now as I participate in this conversation with both of you, that I'm completely missing out on all the wonderful things that Isabel is sharing with us. All I can see is just a very passionate, beautiful, smiling face in front of me, but I wish I could understand. So for sure. And in terms of, again, having had the experience of living in Ottawa, as I mentioned, I think perhaps during our last podcast, being the second, official language of Canada, there is absolutely a lot of opportunities being bilingual. That in terms of work, that it opens up, and it's the culture is a very, very much a part of what Canada is today. And it's not just about whether or not you live in Quebec. We see pockets of very strong Francophone communities in different parts of the country. And, yes, again, it would certainly not be disadvantageous to not be able to speak. Rather, it opens more doors in terms of work opportunity, in terms of even having the flexibility of what school you want to send your children to. And that's the beauty of being here, is that that opportunity is there. It's not like this is it. This is the only language that, English or French, you're actually able to choose. And when we know that it's not just in Canada, other parts of the world also, French is a spoken language in many different parts of the world. So absolutely, that would be an advantage for newcomers to have Canada's second official language under their belt.
Thank you, Sunita. So let's go back a little bit again to the immigration process. Question pour vous, Isabelle, est-ce que Kingston, ça a été votre premier choix?
Alors oui, quand on a pensé déménager au Canada, on a presque tout de suite pensé Kingston. En fait, on n'est pas venu ici par hasard, on avait un projet professionnel. Enfin, c'est mon mari qui avait un projet professionnel. Il travaille dans le secteur du café et il va travailler avec un torréfacteur qui est basé sur le comté du Prince-Édouard. Donc, il fallait qu'on soit pas trop loin du comté du Prince-Édouard. Donc, depuis la France, on a regardé une carte. Maintenant, on a tous les moyens à notre disposition, Google Earth. Enfin, il y a plein d'outils magiques qui existent. Donc, on a regardé la carte et on a cherché une ville pas trop grosse. En fait, on voulait pas forcément habiter dans une grosse ville déjà parce que le marché aurait déjà existé. On veut plutôt développer ou compléter un marché localement par rapport au café. Et puis, on a déjà vécu dans une grande ville avec nos enfants à Paris et on ne voulait pas retomber dans ce schéma. C'est vrai que pour l'hygiène de vie, une ville à taille humaine, c'était vraiment important pour nous. Donc, on a trouvé que Kingston, c'était vraiment le compromis parfait, ville universitaire, dynamique, au bord d'un lac. Enfin, voilà, en termes d'hygiène de vie, je crois qu'on peut difficilement faire mieux. C'est pas une trop grosse ville, mais il y a vraiment tout ce dont on a besoin. Et puis en termes de scolarité aussi, c'est vrai qu'on a regardé ça aussi pour nos filles, qu'elles puissent trouver une école francophone. Voilà, c'était important pour nous. Donc non, on n'a pas hésité très longtemps. On est venu en reconnaissance avant d'arriver définitivement, et ça a que fait confirmer que voilà, c'était la ville idéale pour notre projet professionnel et familial.
Super. Sunita, I asked Isabel why Kingston? And so I would like to, and Isabel explained that was for professional reasons, and I would like to ask you the same. And at the same time, I would like also to ask you for the immigrants that they are hearing us, how we can convince them to immigrate to Kingston?
Yeah, so I think I'm going to just say, why not Kingston? Having lived here for as long as I have, I'm just a big personal advocate for Kingston, and I can tell you that it was it was also professional reasons that brought us here. But and I was very reluctant at first, to be honest, because I thought it didn't miss that. And this is just moving within Ontario, not even within Canada. But I had family in Ottawa, I had family in GTA, but none in Kingston. But once I got over that hump, like, it is the sense of community here in Kingston is tremendous. And we always say that there are maybe 2 degrees of separation here in Kingston. So yes, it's initially it might be difficult to make those connections, but once you make a connection, like, it can take you quite far. And whether it is, and I give this advice to newcomers, even students in high school, like, volunteer, get out there, make connections, because it is important to get to know the community. And there is that warmth in the community here in Kingston, and networking opportunities, and so much is available, but you do have to put yourself out there. You do have to take the time to get to know. And once you do, it is interesting to see how everybody knows everybody, and they're willing to kind of make those connections, help you network and get you set up. At the same time, yes, I'm not oblivious to the fact that we, you know, opportunities, employment opportunities and whatnot can be limiting sometimes here. A lot of times for newcomers, either there's only those initial starting positions, you know, very much front line, perhaps at restaurants and fast food places and whatnot. There isn't, even when we look at students from Queens and St. Lawrence, we do have a hard time keeping them here because an MBA from Smith School of Business is seeking a six-figure salary that very few opportunities here will match that in Kingston. So yes, there is that sort of disconnect, and I know that there's a lot of effort on parts of, be it economic development and other agencies that are in the process of that talent retention here, and not just recruitment, and more has to be done. So yes, there is some limitation there, but as a city, it's beautiful. If anyone looking to immigrate is hearing us, 10 minutes drive and you can find yourself at a beautiful lake, beautiful city, tons of good restaurants, and there is still that opportunity to travel 2 hours east or west and make it to Ottawa or Toronto to get that big city feel, but you don't spend half an hour commuting every day to work, and you don't spend your time stuck in traffic and whatnot. So all of that is valuable, and you see that as you, I can say this again, personally speaking, raising a family here, making sure that our children were able to access so many different extracurricular activities after school. All of that was possible because we were not spending our time on Don Valley Parkway or on the 401, and we were able to do that. So, there is that quality of life that Kingston offers, but then, yes, we have to make sure that we can offer enough opportunity work-wise, employment opportunity or startup or whatnot, but yes.
Est-ce que vous partagez de la même opinion que Sunita, Isabelle? Quelle est votre perception par rapport à la communauté qui vous entoure? Vous avez la même que Sunita?
Oui, je suis entièrement d'accord avec Sunita. Donc, ce sens de la communauté, je trouve qu'il est extrêmement développé. Alors, je ne sais pas dire si c'est à Kingston ou si c'est au Canada d'une manière générale parce que je n'ai pas l'expérience, mais en tout cas, beaucoup plus que de là d'où on vient. Et je suis d'accord avec elle quand elle dit qu'il faut pousser les portes, mais quand il y en a une qui s'ouvre, généralement, il y en a une autre derrière. Et quand on commence à ouvrir les portes, elle s'ouvre un peu tout en même temps, donc c'est assez magique. Mais c'est ce que je dis aussi à mes enfants, il faut y aller, quoi. Il faut oser, et oser juste franchir le cap et avancer. Mais oui, là-dessus, je suis d'accord. Et pour enchaîner sur ce que disait Sunita par rapport au fait de retenir les gens à Kingston, je pense que sur cet aspect-là, si on veut pouvoir retenir les jeunes après leurs études, je parle d'une manière générale, il faut offrir des opportunités professionnelles, c'est déjà la première chose, et pas juste une ou deux grosses entreprises, parce que quelqu'un qui va travailler ici, il veut avoir la possibilité peut-être, si jamais ça ne se passe pas bien, de passer à un autre emploi. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un tissu économique suffisant. Après, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une offre culturelle, parce que les gens ne veulent pas juste travailler, mais ils veulent aussi pouvoir se divertir. Pour ça, je pense que Kingston est pas mal loti. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à faire en termes de théâtre, de cinéma, de Fort Henry. Enfin voilà, je trouve que c'est assez riche. Et après, il faut qu'il y ait une bonne accessibilité, des bonnes infrastructures. Donc, je trouve que Kingston est très bien situé. C'est vrai que si on cherche la ville, on l'a facilement. Donc, je trouve qu'on a les avantages de la petite ville et pas les inconvénients de la grosse. Mais par contre, si on cherche la grosse ville, on peut y aller en 2 heures. Voilà, on peut aller à Ottawa, Toronto, Montréal, et pas si loin. Donc, ça a été aussi déterminant dans notre choix, d'ailleurs, de nous installer ici, parce qu'on savait que si on était en quête de grosses boutiques ou des vibrations de la ville, on pourrait la trouver assez facilement. Et puis, le dernier point, c'est le coût de la vie. Donc, en gros, il faut que les salaires soient en corrélation avec le coût de la vie sur place. Il faut pouvoir se loger, se nourrir à des prix raisonnables pour pouvoir encore assumer des loisirs à côté de ça.
Merci, Isabelle. So we are speaking. We agree that Kingston is a beautiful city. But on the other hand, so Kingston is an excellent destination for retirees. But it is like it's a struggle for recruit young talents. What are some of your? So I will start this time with you, Sunita. What are some of your solutions that we can use to attract and retain young talents in Kingston?
I think I touched on this a little bit already in our previous conversation, but I mean, it is a beautiful city, and yes, we hear of seniors relocating to Kingston from Toronto and whatnot, where they see the advantages of being in a smaller city where commute time and whatnot isn't that much, and you know, the advantage of like perhaps even selling their real estate there and coming to Kingston, getting a smaller place. But yes, if we are going to become labeled as a retirement city, which I think somewhat we have, we are not going to be able to attract young talent. And that is definitely a challenge. I wish I had some magic solution to that, but it would be nice to see more advocacy with funding for startups and some sort of subsidies and whatnot for startups to get set up here, because that's what it seems a lot of the young talent is. They're also diversifying. If they are not able to get jobs, they're all very entrepreneurial. So what are the incentives that can be offered here in Kingston? And if we look around, like in the Prince Edward County, like what they have done with tourism and what they have done with, and they're much smaller than we are, and similarly Brockville. So perhaps being a little bit more open, and I tread very carefully when I say this, but sometimes a new venture starting here in Kingston does end up getting a lot of opposition. And I'm not saying necessarily from the municipality, but there is almost like a group of people that is so bent upon preserving things the way they are that, it's nice to have that history, but then we also have to be able to evolve with the new, and we have to be flexible. So I'm going to use a recent example about a spa that is opening up in Kingston. It's a little bit like the Nordic theme. And there was a lot of resistance. We read about that in media, whereas you think that we would be so open to the idea of a spa like that that is opening up in Kingston, and rather than having our, we're attracting more people and people from Kingston not going to Nordique or somewhere else to have that sort of an experience. So until and unless we create more of those opportunities, be it recreational, be it entrepreneurial, we are going to have a hard time keeping young talent here. I can tell you that from personal experience. My two don't want to stick around for too long. So that is the other side of it.
Yes.
Et si je peux rajouter un point, parce que je pense que Sunita a abordé un sujet que je trouve intéressant et qu'on a pu constater donc de notre courte expérience à Kingston, puisqu'on n'a encore pas beaucoup de recul, mais encore une fois, c'est basé sur nos observations, par rapport à l'organisation un petit peu des communautés, les trois facettes qu'on a vraiment ressenties à Kingston. Donc il y a celle qu'elle abordait tout à la fin par rapport au côté plutôt conservateur. Effectivement, je trouve qu'il y a une facette qui est les habitants de Kingston qui ont toujours vécu ici, qui y habitent depuis très longtemps, qui, on a trouvé, ont un profil plutôt conservateur. Et ça, on s'en est rendu compte pendant le confinement. Je me suis amusée à m'abonner à des tas de pages Facebook pour sentir un petit peu les vibrations de la ville, dont une. J'adore suivre, en fait, c'est les Kingstonistes, parce que j'ai l'impression que ça dit un petit peu tout ce qui se passe en ville. Et puis, je m'amuse à lire les commentaires et je trouve que parfois, dans les commentaires, on voit des personnes très engagées, quoi, qui ont vraiment des points de vue elles restent campées sur leur position, quoi. Donc ça, c'est une facette. L'autre facette, on l'a abordée tout à l'heure, je trouve que c'est la vie universitaire. On a l'impression que le rythme de la vie à Kingston est un peu calé sur le rythme de la vie universitaire. Et puis, la troisième, on en a parlé un petit peu aussi, mais c'est la vie autour de la base militaire. C'est vrai qu'il y a une grosse communauté de rencontre autour de ça, de familles de militaires qui sont souvent francophones. Et j'ai envie de dire que les deux dernières, tous ces étudiants et puis ces familles de militaires, ils ont moins peut-être moins ce souci de s'intégrer que nous, les nouveaux arrivants, parce qu'ils savent que potentiellement ils vont être là temporairement. Voilà, c'est un petit peu nos constatations sur les différentes populations qu'on a pu constater qui cohabitaient à Kingston.
Merci beaucoup, Isabelle. Maintenant, j'ai une dernière question. I have the last question for you. And so the last question is, if you have any advice or suggestion for immigrants who are listening and thinking about their own immigration process. So can be about concerning the attitude, the need to be adaptable or not, to be open to new experiences or not, having any expectations or not. Donc, Isabelle, la même question pour vous. Quels sont vos conseils pour les immigrants qui nous entendent et qui pensent à émigrer, qui pensent à leur parcours d'immigration? Quel est vos conseils par rapport à l'attitude, la façon de s'adapter aux nouvelles choses qui arrivent tous les jours? Bon, un petit peu votre avis là-dedans.
Moi, j'ai plein de conseils à donner. Évidemment, l'expérience, elle est encore toute récente pour nous. Donc, le premier conseil, il semble évident, mais c'est vraiment de bien, bien, bien préparer son départ. Toute la préparation qu'on fait en amont, elle facilite les choses à l'arrivée. Il y a des tas de choses sur lesquelles on peut travailler et des tas de choses qu'on peut anticiper. On sait de toute façon qu'il y aura des imprévus à l'arrivée. Donc, tout ce qu'on peut préparer en amont pour éviter de se trouver dans des situations difficiles, je pense que vraiment il faut le faire. Si on peut faire un voyage de repérage, c'est toujours intéressant parce que ça permet de vérifier qu'on n'a pas idéalisé le lieu, qu'il est conforme à la réalité. Il faut être patient, surtout être patient. L'intégration, c'est long. Les démarches administratives, c'est long. Donc, c'est important de laisser faire le temps. Faut pas s'imaginer qu'en un mois, on va être là comme on était avant dans notre vie antérieure. Il faut faire preuve de beaucoup d'ouverture d'esprit. Ça, pour moi, c'est vraiment très, très important. Pas avoir trop d'attentes pour éviter les déceptions et puis plutôt accueillir les différences. Et puis, il faut être prêt à réapprendre. Ça, il faut vraiment s'y attendre. On a des tas de choses à réapprendre. Pour la petite histoire, je parlais tout à l'heure de mes 30 années de permis de conduire. J'ai relu le code de la route, mais c'est vrai qu'on n'anticipe pas forcément ça, mais il y a des différences. C'est important de savoir que quand un bus scolaire s'arrête et qu'il clignote, surtout, il faut s'arrêter. Et puis qu'on peut passer au feu rouge quand on tourne à droite. Ça, en France, ce n'est pas possible. Donc ici, on peut, mais c'est vrai que ça ne s'improvise pas. On ne peut pas le savoir à l'avance. Donc c'est vrai que, être prêt à réapprendre. Et puis mon dernier conseil, ça serait faire preuve de beaucoup d'humilité. Je crois que c'est vraiment un des éléments clés pour une bonne intégration. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on a vécu ailleurs et qu'on a vu autre chose, on sait tout. Je trouve qu'on a toujours des choses à apprendre, toute notre vie et puis de tout le monde. Voilà. Et comme vous avez compris que j'adorais les citations, je vais finir par une petite citation qui se prête parfaitement au contexte. C'est « Bien que personne ne peut revenir en arrière et prendre un nouveau départ, tout le monde peut commencer maintenant et écrire une nouvelle fin. » Voilà, je trouve que ça résume assez bien la situation.
Merci Isabelle, j'aime beaucoup cette citation. So Sunita, same question for you. Isabelle, very quickly, I will... So Isabelle said that the advice is to be patient, to be organized, to be an open person, accept the differences, and to be ready to learn every day. Do you want to add something to this?
No, those are great points. I don't think there is much more that I have to add. I think adaptability is probably the one skill that we have to bring with us. And I'd like to think that anytime you're making a decision, such as this, where you're planning on immigration or immigrating to a different country, obviously you're a risk taker. So that says a lot about you in terms of resilience and yes, being open, being adaptable, don't get disheartened, because things will happen. There will be obstacles, but not getting disheartened and continuing to that pursuit, looking for answers, because there are answers, and sometimes it literally is a matter of getting connected to the right person, and that's what we call a mentor here. Sometimes it's finding that mentor who can help you navigate. So absolutely, I think Isabel touched on all of those as someone who's relatively new, and I've forgotten all that, but for sure.
Merci infiniment à nos invités, Isabel et Sunita, d'avoir pris le temps de nous parler, de nous donner du perspective. Thank you so much to our guests, Sunita and Isabel, for taking the time to chat with us and gain some perspective. Merci beaucoup à tous et à toutes. Je tiens à remercier ACFOMI pour avoir rendu ce balado possible et pour cette expérience fantastique. Thank you very much, everyone. See you in a future podcast. I would like to thank ACFOMI for making this podcast possible and for this fantastic experience. Have a good evening, everyone. Et à la prochaine.
Merci
beaucoup.
Merci. Thank you for listening to One City, Two Realities, Une Ville, Deux Réalités, brought to you by ACFOMI, l'Association canadienne française de l'Ontario, Conseil régional des Mille Îles, and produced by Titan Sound in Kingston. Music composed by Elizabeth Santos. ACFOMI souhaite remercier gracieusement Patrimoine Canada, the Kingston Frontenac Public Library, nos partenaires médias, nos commanditaires, et nos invités spéciaux. Visit acfomi.ca for the latest information on our podcast series, as well as all the bilingual events happening in the Kingston and Thousand Islands region.